On accueille notre premier invité au téléphone, c'est Laurent Perpignan. Salut Laurent.
Salut.
Comment ça va depuis hier?
Ça va bien, écoute.
Bon Laurent, déjà merci d'avoir, d'avoir pris le temps de réagir à ce qui s'est passé ce week-end dans Gironde Analyse. On va faire un petit premier point rapidement. Déjà, est-ce que tu peux nous donner des nouvelles des gens qui étaient là-bas? Déjà, est-ce que tout le monde est rentré? Oui, je suppose quand même, on est lundi soir.
Difficilement, avec des conditions atmosphériques un peu particulières dans l'Est.
Ouais,
mais
ouais,
tout le monde est rentré et tout le monde a repris le boulot ce matin.
Ah ouais, donc ouais, il y en a, ils ont pas, ils devaient être frais.
Première fraîcheur.
Ça, ok, point rapide.
En donc t'attends des cuvées en cellule.
Oui, c'est clair.
18h.
Tu passes 18h
en garde. T'attends de dormir, plein de choses. Bon, à 4 mètres carrés à 4, c'est plus difficile. Mais...
Alors Laurent, sans juste pour les gens qui n'ont pas trop suivi voilà, ce qui s'est passé, juste tu peux nous juste recontextualiser un petit peu ce qui s'est passé samedi soir. Et puis après, on rentrera un petit peu plus dans le détail de ce qui peut advenir par la suite.
Alors, sur les éléments de contexte...
Ouais, rapidement, pour remettre un petit peu... Voilà.
C'est une histoire qui est assez longue. Finalement, puisque les interdictions de déplacement ont succédé aux interdictions de stade, qui est à titre individuel, voilà, ça fait plusieurs années que, face aux différentes problématiques qui sont posées par le cas supporter en France, les autorités essaient de trouver des solutions. Le premier, ça a été les interdictions de stade, ensuite il y a eu les interdictions administratives de stade, et ensuite il y a eu ces interdictions de déplacement. Bon, alors là, on va essayer de faire assez rapide et de contextualiser dans la situation des deux dernières années. Les interdictions de déplacement ont plu partout. Se sont répandus. Il y a eu un contexte politique qui était assez particulier. Il y a eu les attentats, il y a eu l'état d'urgence, il y a eu la préparation de l'euro, qui ont fait que c'est presque devenu la norme, notamment en 2015 et en 2016. Il y a eu énormément de déplacements de supporters qui étaient interdits et pas des déplacements à risque. Hein. On parle de deuxième ou troisième division. On s'est adapté à ça bon gré mal gré, un petit peu comme toutes les tribunes françaises, en respectant dans un premier temps ces interdits. Et on s'est aperçu qu'au final, l'état d'urgence est maintenu, certes, mais c'est quand même assoupli. Et les supporters restent toujours enfermés dans une espèce de politique d'exception qui est menée à leur encontre. Au sein des Ultramarines, on a porté le débat, et on le porte depuis plus d'un an et demi, maintenant, à savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-il acceptable d'être privé de nos libertés? Est-il acceptable d'avoir à demander la permission à la Ligue de football professionnel ou à des préfectures d'aller voir un match de football? Au vu des éléments qui étaient les nôtres, on a décidé de ne plus s'y plier. Et ça a commencé il y a plus d'un an maintenant. Et c'était pour un an de Bordeaux, on en avait déjà parlé. Un arrêté était tombé et on a décidé d'y aller quand même. Voilà, le match était le samedi, l'arrêté est tombé le mardi. Nous avons donc fait un communiqué pour expliquer que nous ne nous soumettrons plus à ces interdits. Prise de panique, la préfecture, avec un excellent travail à l'époque de David Lafarge auprès du club de Nantes, a fini par accepter notre présence. C'était déjà une première victoire. Ça avait été un bras de fer assez épique. Mais malgré ça, les supporters des journaux avaient pu se déplacer en nombre restreint, certes, mais avaient pu se déplacer. Voilà, donc à partir de ce moment-là, on a bien senti qu'il y avait, aussi matière à faire infléchir les autorités. Et de toute façon, on avait annoncé et expliqué que ces arrêtés étant profondément injustes, nous ne pouvions plus les respecter. Voilà. Maintenant, il s'est passé donc, et les 30 ans se sont passés, vous connaissez le résultat, un malheureux enflammage de banderole à 3 par-dessus.
Alors rappelons que c'était un accident quand même.
Oui, on évite de faire brûler nos typhons.
Oui, voilà, non, parce que plein de gens disent ils ont fait cramer. Non, c'est un accident où il n'y a pas de blessés.
C'est un accident regrettable. Ouais. On ne se défausse pas et on ne se défausse jamais de nos responsabilités. Maintenant, il y a aussi quelques éléments à rappeler. Les fumigènes, il y a une négation totale de la part des autorités du problème des fumigènes. Ils pensent qu'ils ne le résoudront que par la force. Ça fait 25 ans, 30 ans qu'il y a des fumigènes dans les stades. Bon, voilà, on n'a pas évolué. Sauf que, effectivement, l'allumage des engins pyrotechniques est hyper dangereux parce qu'il est interdit, durement réprimé, donc les gens font à peu près n'importe quoi pour les rentrer.
C'est dangereux quand c'est pas maîtrisé.
Et ben, le problème, c'est que quand les gens se cachent pour échapper aux 50 caméras qu'il y a dans le stade, on ne sait pas comment le fumigène est allumé, où il finit, et ça accroît la dangerosité. Donc là, c'est quelque chose qui est totalement contre-productif. Ça, c'était sur la question des fumées. Bon, sur la question des déplacements, donc, la suite, c'est la Ligue qui nous interdit de nous déplacer, qui interdit l'accès au parquage des visiteurs à Nantes et à Strasbourg. Il faut savoir que la Ligue, pour nous, nous considérons que la Ligue n'a pas autorité pour savoir quel déplacement de supporters est dangereux ou pas. La préfecture, c'est une chose, la Ligue, c'en est une autre. Et on n'est absolument pas là dans la prévention des risques, on est dans la punition. Une sorte d'infantilisation des supporters, où on a l'impression d'avoir demandé à papa et à maman de savoir si on a le droit d'aller au match la semaine qui vient ou de faire un déplacement. Et si ça se passe mal derrière, on prend une punition avec un match, deux matchs ou trois matchs d'interdiction. Ça, c'est complètement aberrant. Les décisions de la préfecture, notamment la décision de la préfecture à Strasbourg, est à peu près logique. À partir du moment où le parquage visiteur est fermé par la Ligue, je vois pas quel préfet irait dire « Bon, il n'y a pas de problème, on autorise le déplacement des supporters ». Voilà. Donc sur ce cadre-là, il faut être précis. La Ligue de football professionnel joue encore avec les supporters et considère finalement que les acteurs indispensables dans lequel on vit et qu'on supporte ne valent pas grand chose et ne méritent pas d'être très bien considérés. Bon, la suite, à Nantes, donc les ultramarines se déplacent, partent en bus. Alors il faut aussi bien comprendre que la police nous suit, la police nous traque, la police nous écoute, certainement ce soir également, et la police est à peu près tout. Voilà, donc les camarades qui sont partis à Nantes, ils ont pris de vitesse, et ont réussi à arriver jusqu'à la gare de Nantes, mais ils ont été rattrapés par la patrouille sur place, contrôlés, photographiés et renvoyés à la maison. Voilà. Sur la question de Strasbourg, on a été plus intelligent, parce que nous aussi on s'est adapté, eux s'adaptent, on s'adapte aussi. Et l'association donc a décidé d'aller représenter continuellement son club, surtout dans cette période charnière de notre saison. Et on est rentré en contact avec les Strasbourgeois qui subissent évidemment les mêmes problématiques que nous, qui sont aussi des supporters engagés comme nous le sommes. Et qui nous ont donné une aide logistique très précieuse. D'ailleurs, on salue ouais, leur geste. Ils nous ont permis très concrètement de rentrer au stade. Voilà. Donc, on est encore une fois, on n'était pas dans un arrêté qui était par rapport à la gestion de problématiques de sécurité. On était vraiment dans la punition. Et cette collaboration avec les Strasbourgeois sur ce cas-là a bien montré toute l'ineptie de ce genre d'arrêté. Ils ont réussi à rentrer dans le stade. J'ai fait le tour, j'en ai appelé quelques-uns cet après-midi pour vous donner quelques détails. Ils ont réussi à rentrer dans le stade. Les supporters de Strasbourg ont fait une grève pendant plus de 5 minutes en montrant un petit peu ce qui pouvait attendre éventuellement la France dans quelques mois ou quelques années, si elle ne changeait pas sa politique supporter, c'est-à-dire un stade de sans ambiance. Un stade sans bruit. Et à partir de la cinquième minute, ils ont commencé à chanter une fois que la bâche des ultras, notre bâche à nous, a été dépliée dans la tribune en face. La suite, c'est une expulsion manu militari, menottée, enfermée.
La préfecture nous dit sans violence et sans. Mais bon, les vidéos.
C'est cool, c'est des vidéos qui parlent pas.
Voilà, les vidéos sont un petit peu différentes de ce qui a été officiellement annoncé.
Après, c'est peut-être leur version de sans violence.
Oui, alors, en effet, si on considère sans violence égale sans blessé grave, il faut quand même revoir la théorie de la violence, parce qu'en ce qui concerne les supporters, les actes de violence sont assez rapidement déduits et rendus publics dans la presse, d'accord. Donc là, je pense que oui, c'était presque une émeute, on aurait pu dire, selon les classifications faites par les instances et les autorités. Donc ils ont été sortis du stade, ils ont été menottés, ils ont été amenés au commissariat, on leur a posé des numéros sur le torse de 1 à 43, et puis on les a mis à 4 par cellule.
C'est là la nouveauté par rapport à Nantes où il y avait juste eu interdiction de rentrer dans le stade et retour à la maison. Là, c'est monté un cran au-dessus.
Là, on est monté un cran au-dessus. Il y a aussi, il faut le signaler, pour être précis sur les faits, hein, une vingtaine de supporters, enfin, deux minibus qui ont été contrôlés avant d'arriver, et enfin en arrivant surtout.
Et qui ont fait demi-tour.
Qui ont été contrôlés, évidemment, ils ont pris les identités et ils les ont envoyés. Bon, voilà. Le traitement qui est fait à des supporters qui vont voir un match de football, ce traitement-là est dégradant, est indigne. Faire 18 heures de garde à vue pour avoir été voir un match de football, c'est totalement aberrant. Le traitement qui est fait aux supporters c'est totalement déplacé. On ne met pas un numéro sur des gens. Je suis désolé, on colle pas une étiquette de 1 à 43. On regroupe pas les gens à 4 par cellule. Ils ont quasiment pas mangé pendant 18 heures. Bon, voilà, on est pas en train de pleurer, mais il faut quand même bien préciser ce qui est. Et au final, on nage dans l'absurde. On nage dans l'absurde parce que les policiers eux-mêmes ont fini par être désolés de la situation.
Oui, c'est Flo qui disait ça dans un article sur 20 minutes, je crois, ce matin, qui témoignait, qui disait que oui, les policiers eux-mêmes disaient, ben, on sait pas trop quoi.
Les policiers étaient désolés au moment de prendre les gens en photo, ils se faisaient presque. Qu'est-ce que vous foutez là ?
Puis ils avaient surtout autre chose à foutre un samedi soir à Strasbourg, quoi.
Donc un témoignage d'un officier de police sur place. À quelques rues du commissariat, une voiture s'est encastrée dans un immeuble. Le conducteur était en état d'ébriété. Ils sont intervenus, ils ont juste pris les clés, ils ont dit de repartir parce qu'il n'y avait plus de place dans le commissariat.
Mais il n'avait pas de torche sur lui, tu vois, donc ça passait.
Donc nous sommes en 2018, on privatise un commissariat.
C'est clair.
Dans une ville comme Strasbourg pour des supporters qui ont été au stade. C'est aberrant. Et au-delà de ça, c'est profondément scandaleux. On s'est plié aux arrêtés quand on a jugé que, voilà, après les attentats, on a pensé que c'était la meilleure des choses à faire. Voilà. Aujourd'hui, ces arrêtés, ils n'ont aucun sens.
On se présente
dans un stade, on y va et on dialogue avec l'association de supporters rivales, je le rappelle quand même, pour pouvoir fenêtrer dans le stade, et on est traité comme de la merde. Il ne faut pas oublier, encore une fois, que tout le monde se sert de notre image, l'image des supporters de football. Un stade sans ambiance, c'est un stade qui ne fait pas vendre, vu que ce qui est devenu le football, vous savez très bien, voilà, hein, qu'il en revient. Et au-delà de ça, si demain à Bordeaux, comme dans d'autres stades, il n'y a plus de supporters dans les tribunes, mais à qui on donnera l'envie de venir au stade ?
Et puis la Ligue, qui, comme tu le dis très bien, se sert pour ses vidéos, pour ses avant-matchs, pour tout ce que tu veux, de ces ambiances, de ces images de stades, de tifos, de machin, c'est complètement...
Moi, ce qui me pose un problème, c'est que j'ai l'impression que c'est même pas fait intelligemment, parce que, bon, pour faire l'avocat du diable, ça va être marrant 5 minutes, tu te dis, les méchants supporters ont allumé des torches, alors que c'est interdit depuis des années, donc on reviendra pas sur le cas qu'il y a eu des disques... Il y a eu un essai de discussion il y a quelques années qui a été bien abandonné et pas spécialement à cause des supporters. On va passer ça sous silence, on va dire que non, il n'y a jamais eu de volonté des supporters de faire en sorte que les torches, ça se passe bien. On va dire, les méchants supporters ont craqué un fumier. Bon, la banderole s'est enflammée, je ne pense pas que ça vous serve beaucoup à l'image, surtout en ce moment. Et tu as l'impression que... Au final, c'est un prétexte, que c'est même pas ça la raison, c'est juste un prétexte. À une époque, ils en avaient contre les Stéphanois. Là, c'est passé autour des ultramarines. Bon, soit. Passons. Bon, ils interdisent le déplacement. Il y a un déplacement, ok. Ils font appliquer bêtement la loi. Mais arrive un moment, c'est... Quand tu vas dans l'excès, tu passes pour un con. Et là, tu te dis que même là, ils ont pas été capables de réfléchir suffisamment. Il suffisait tranquillement... Bon, tranquillement, de faire sortir des gens du stade qui voulaient pas sortir, comme l'a dit Florian. Tu te dis, bon, allez, ça va être un peu plus, mais arrive un moment, ça dure pas 18 heures, la garde à vue, tu privatises pas un commissariat pour ça. Aujourd'hui, tu peux frapper ta femme, il va falloir qu'il y ait 40 preuves avant que tu sois inculpé pour quelque chose. Tu peux dealer sous le pont d'Aquitaine, il se passera jamais rien, parce que chaque soir qu'ils passent, ils y sont, mais les flics font jamais rien. Par contre, tu peux juste pas aller au stade quand t'es supporter. C'est là, c'est le deux poids de mesure qui est pas logique. C'est-à-dire que si encore ils veulent faire appliquer leur loi, parce qu'ils considèrent que les gens sont hors la loi et qu'il y a un règlement et que c'est comme ça que les gens quasi pliés, j'ai envie de dire ok, mais il faut que ça reste logique par rapport au reste. Là aujourd'hui, t'as l'impression que des supporters sont traités comme des hooligans, comme si c'était des terroristes. Et il y a, je sais pas, on se vante d'être le pays des droits de l'homme, mais merde, t'as juste des gens qui se déplacent d'un point A à un point B, quoi. Et le pire, c'est que tu te dis, ah, mais ça a mal se passé entre les supporters dans les années 90, il y avait une petite rivalité et tout. Ouais, mais là, c'est quand même les autres qui les ont fait rentrer dans le stade. Donc, arrive à un moment, quand ça se passe comme ça et que c'est pas trop dans ton sens, tu le fais petit. Moi, j'aurais été, tu vois, tu peux dire, bon, on attend la fin du match. Quand ils sortent, ben, on va relever l'identité. Il y aura peut-être des interdictions au stade. Ils appliquent ce qu'ils veulent. Mais passe pas pour le couillon, parce qu'au final, ils sont passés pour le couillon de
oui,
l'histoire.
Oui, mais ils s'en foutent.
Mais non, ils s'en foutent pas, parce que tu vois, aujourd'hui.
Laurent,
non, laisse-moi finir. Ouais, RMC, on a parlé. Le Monde, on a parlé.
Tout le monde, l'équipe.
L'équipe, Pierre Ménès sur le plateau de Canal Plus. Non, mais je veux dire, petit à petit, ça va les desservir et ça va faire gagner à cause des supporters. Voilà. Si tu fais l'avocat du diable, tu te dis que même là, ils sont pas bons. Alors, bon, après, je ne conçois pas ce qu'ils font, mais tu te dis même en étant intelligent, ils n'arrivent pas à l'être.
Laurent, moi, j'ai deux questions à te poser. La première, est-ce que ce qui s'est passé à Bordeaux, à Strasbourg, c'est pas le déclencheur la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Et je parle pas que pour nous, supporters bordelais, je parle pour tous les groupes de supporters, ultra ou non ultra de France. Est-ce que c'est pas le fait qui fait que, ben voilà, à un moment donné, on dit stop et il faut faire quelque chose, parce que là, c'est plus possible.
Je pense que ce qui va être déterminant par la suite, c'est la couverture médiatique qui va être apportée à ça. Là, pour l'instant, on est vraiment dans une dynamique où nous, à Bordeaux, on a choisi la désobéissance civile on l'assume complètement. On essaie d'aller jusqu'au bout. Est-ce que ça va être le déclencheur de quelque chose? Je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on n'a plus le choix. Parce que là, il faut bien être clair, il va falloir tâcher d'être réaliste, sans pour autant être défaitiste, mais ce qui plane au-dessus de Bordeaux aujourd'hui, c'est entre 150 et 200 interdictions de stade.
J'allais te dire que risque, enfin c'est très bon.
On a entre 150 et 200 interdictions de stade, donc la quasi-totalité des responsables du noyau dur du
groupe.
Et ce qui plane au-dessus du virage sud aujourd'hui, c'est sa mise en sommeil. Voilà, on va parler clairement, on va poser les choses.
Si des IDS de 6 mois ou plus tombent.
Oui, tout à fait. Voilà, il faut savoir ce qui nous attend, il faut savoir ce qui attend Bordeaux. On ne peut pas survivre à 200 interdictions de stade. Parmi ces 200 personnes, il y a les gens qui font les tifos, qui sont tous les jours au local, il y a les gens qui font tous les déplacements, qui vont bâcher partout, les gens qui mettent l'ambiance, ça serait clairement une illégalisation des ultramarines, de fait. Voilà,
pour donner une idée aux gens, c'est les gens qui sont à la table quand vous venez acheter du matos, c'est les gens qui installent la bâche, qui installent les draps, enfin si ces gens-là ne sont plus là.
Non, il y a deux solutions, et c'est là où notre combat commence. On est bien déterminé à le mener. Je pense que les camarades de l'ANS vous le confirmeront, qui sont justement sur le même segment de lutte. Maintenant, il y a des instances en France. Il va falloir qu'elles choisissent. Soit c'est la loi et l'ordre, et c'est la fin du mouvement ultra, on va droit dans le mur et ça finira par exploser dans toutes les tribunes en France. Et déjà, au niveau des interdictions de déplacement, je pense que d'autres groupes vont nous emboîter le pas et se joindre à ces actes de désobéissance.
J'allais te le dire, est-ce qu'il ne faut pas une unité, justement, malgré certaines rivalités qu'il peut y avoir entre groupes ultra français?
C'est à chaque groupe de voir là où est son combat.
Ouais, mais si tout le monde agit dans le même sens, de dire à partir, alors quand je dis tout le monde, allez, peut-être pas 100%, parce qu'il y aura toujours quelques groupes qui décideront mais au moins une majorité qui décide de dire maintenant comme les ultramarines et comme d'autres, on dit stop, on refuse, et je me dis que si la masse Ligue 1, Ligue 2, allez, même les groupes de National, ça fait combien de centaines de gens, tu vois ce que je veux dire? À chaque stade, sur chaque match, à chaque fois, tous les week-ends, au bout d'un moment, ça sera plus tenable, quoi. Si la majorité...
C'est pas notre rôle de faire des injonctions aux autres groupes de supporters. Comme je l'ai dit, chacun gère sa barque. Maintenant, il serait évidemment le bienvenu que tout le monde comprenne que la lutte aujourd'hui passe par une prise de risque. Nous, à Bordeaux, on est capable de prendre ces risques. Voilà, on les a pris sciemment. On n'est pas aujourd'hui en train de pleurnicher, on est en train aujourd'hui d'essayer de défendre le droit de tous les supporters. Parce que je rappelle que parmi les personnes qui ont été arrêtées à Strasbourg, il y a des gens qu'on ne connaissait même pas, qui ont vu les supporters des Bordelais qui se sont regroupés, qui habitent en Alsace, se sont rapprochés d'eux et qui ont passé la nuit au commissariat et qui sont convoqués le 20 mars au tribunal de Strasbourg.
C'est 4 personnes, c'est ça, qui sont...
Donc là, encore une fois, qu'on soit bien clair, c'est un combat ultra, mais c'est pas un combat clairement simplement ultra. C'est un combat qui dépasse ce cadre-là. C'est quand même agréable d'avoir un stade TV avec une visiteur qui remplit pour un choc, pour un match. C'est quand même agréable de pouvoir suivre son équipe quand on a des résultats probants, de pouvoir se dire la semaine prochaine, tiens, je vais aller au déplacement à Paris parce que mon équipe a besoin de moi. On ne peut pas interdire la passion, on ne peut pas interdire les déplacements de supporters. Encore une fois, c'est illégitime et je dirais même, c'est presque illégal. Attends, excusez-moi, on est en train d'interdire des supporters raison de leur origine.
J'allais te demander, Laurent, qu'est-ce que tu penses ? Parce qu'il y a aussi un discours qu'il faut... Alors, c'est marrant, on en parlait juste avant que tu appelles. Depuis samedi soir, alors il y a, on va pas se mentir, je pense qu'il y a une majorité de supporters de Bordeaux et de la France entière qui soutiennent ce qui s'est passé, enfin qui soutiennent le mouvement d'hier, donc qui soutiennent les ultramarines. Mais il y a aussi des gens qui disent il y avait un arrêté, ils savaient qu'en y allant ils risquaient de se passer ce qui s'est passé, ils ont qu'à assumer. Qu'est-ce que t'as toi à répondre à ces gens-là qui disent ils savaient ce à quoi ils s'exposaient, il y avait un arrêté, ils n'avaient pas le droit d'y aller, ils y sont allés et ils ont subi les conséquences de ce qu'ils risquaient.
Je leur répondrai que tout simplement, si ces gens-là ont des amis ou de la famille qui va au stade, ou si eux-mêmes vont au stade, il faut qu'ils sachent que les droits, ils tombent pas du ciel. Il faut pas attendre de la Ligue, des préfectures, qu'ils améliorent les conditions d'accueil des supporters dans les stades, si on ne se bat pas. Et si on ne se bat pas pour eux. Donc au final, nous, on se bat pour nous, on se bat pour notre condition d'ultra, mais aussi pour les supporters en général. L'accueil qui est fait aux supporters dans de nombreux stades est absolument indigne. Il est très difficile d'amener un drapeau, de sortir une banderole. Maintenant, nous, on fait les choses en connaissance de cause. Et on sait très bien qu'on prend des risques, on sait très bien qu'on viole les interdits. Mais écoutez, je pense qu'à un moment donné, à partir du moment où c'est illégitime, il faut quand même qu'on s'offusque. On ne peut pas accepter ça. Et comme je le dis, je le répète, on interdit des gens d'aller voir un match de football en raison de leur origine. Vous mettez les mots que vous voulez là-dessus.
Mais c'est leur origine géographique, mais c'est leur origine quand même, oui.
C'est complètement aberrant. C'est complètement aberrant et c'est contre-productif et ça va à l'encontre de tous les efforts qui ont été faits dans les années 90. Avant, jusqu'au milieu des années 90, il n'y avait pas de partage visiteur. Il y avait les CRS qui gardaient les supporters visiteurs, c'est un peu folklore. Bon, il n'y avait même pas d'entrée dédiée. On a créé des partages visiteurs, on a créé même maintenant des voies d'accès. Et au final, qu'est-ce qu'on crée aujourd'hui? Du risque, des contre-partages, quand on l'a dit dans le communiqué. Ce match-là, ils auraient dit bien se passer, c'est un Strasbourg-Bordeaux, les bus seraient arrivés, ils auraient été escortés comme d'habitude, ça plaît pas, bon, c'est une chose, un autre débat, mais les bus seraient arrivés au stade de la Méno, les supporters auraient chanté, ils auraient célébré la victoire, ils seraient rentrés à la maison tranquillement. Au final, on a l'image en plus de la Ligue, et salie dans cette histoire. L'image
oui,
est
c'est
salie.
Ça, c'est l'image ça, pour
et elle est salie pour rien, parce qu'il n'y a pas de raison. Alors, quand on voit que... Il y a pas très longtemps, là, il y a eu une interdiction de déplacement pour un Saint-Étienne-Marseille à cause d'une banderole sortie en 2014, justice pour Castille. Ça a été considéré comme un incident.
C'est ce que j'allais dire. Le 21, considérant plusieurs faits de violence qui ont marqué OM et SSE au stade Vélodrome le 28 septembre 2014, dans les trois qui ont été cités, alors déjà il y a... un couillon de Marseillais qui a lancé un fumier sur le bus stéphanois. Bon voilà, ça c'est un cassos qui fait que tout le monde paye sous 60 000. Ça j'ai envie de dire, il y a pas qu'au foot qu'il y a des débiles. Et après il y a marqué alors arrivé dans la zone visiteur, les supporters ultra ont déployé une très grande bâche portant l'inscription justice pour Castille en soutien aux supporters montpellierains ayant reçu un tir de flashball au visage. C'est-à-dire que même la préfecture va aller jusqu'à marquer ça dans son arrêté préfectoral. Je veux dire, je cherche quand même encore le fait de violence pour une bâche.
Si ça, pour eux, c'est un fait de violence, moi j'aimerais bien savoir. 18 heures de garde à vue en mangeant un plat dégueulasse, menotté au milieu du dos, à dormir sur une planche en bois à Strasbourg, avec un numéro sur le torse, excusez-moi, mais ça c'est quoi? C'est de la torture. Faut arrêter, on oublie, il faut essayer de graduer les choses.
C'est vrai que les mots ont un sens.
On peut pas parler d'actes de violence pour une banderole. Voilà. Il faut être raisonnable. Et aux gens qui posaient la question tout à l'heure, qui ne comprennent pas, mais s'ils ne comprennent pas ça, mais c'est qu'ils ne comprennent rien, ou qu'ils n'ont jamais mené de combat dans leur vie, je suis désolé, on ne peut pas accepter ça. C'est une privation de liberté, ça va à l'encontre de toutes les lois, la liberté de circulation, ça a quand même été inventé, non ?
Ouais, mais alors Laurent, le truc, c'est, enfin, on en a souvent parlé tous les deux, mais... Malheureusement, j'ai l'impression que, alors, t'en as parlé hier dans le communiqué qu'on a fait devant le commissariat à Bordeaux. Effectivement, on devrait s'inspirer grandement de ce qui se fait ailleurs. Je pense notamment à l'Allemagne. Les Allemands, chaque week-end, ils se déplacent pas à 200, hein, ils se déplacent à 2, 3, 4, 5 000. Enfin bref, c'est bien encadré. Mais j'ai l'impression que on est à court de solutions. On a essayé d'unifier les groupes ultra avec la CNU pour avoir un dialogue avec l'État. Alors certes, c'était il y a presque 10 ans, voire un peu plus. Ça n'a pas marché. On a l'impression que y a... Comment faire, quoi ? Qu'est-ce qui...
Il y a quand même eu, au mois de novembre, une action dans un certain nombre de stades, dans les tribunes majeures en France, qui a été portée par l'ANS,
oui,
qui font un travail remarquable, qui mène énormément de réunions avec les instances.
On va les avoir dans quelques instants,
en
direct.
On en est sympathisants, on n'est pas actifs dedans, mais en tout cas, on loue le travail qu'ils font, on les en remercie. On rappelle aussi qu'ils apportent beaucoup de soutien dans toutes nos actions, et même parfois des conseils. Maintenant, l'ANS, voilà, essaie de dialoguer avec les différentes instances institutionnelles du football français. Alors quelles sont-elles ? Il y a d'abord la Ligue de football professionnel qui a eu un changement il n'y a pas très très longtemps. Donc Nathalie Bois de la Tour, qui est la nouvelle présidente, est apparue comme quelqu'un avec qui ils vous en parleront, mais le dialogue était éventuellement possible, mais qui ne se prononce pour l'instant pas trop. A contrario, Monsieur Quillot, qui
c'est Quillot,
secrétaire général,
lui
est complètement à la ramasse. Il a quand même déclaré qu'il y avait eu un incident à Bordeaux-Marseille avec un jeune qui avait perdu les doigts à cause de... Hein, vous avez suivi ça, de un pétard, ouais. Effectivement. Bon, pour quand on est secrétaire général, on essaie de se renseigner quand même minimum sur les déclarations qu'on va faire. Voilà, donc il y a ça d'un côté. Ensuite, il dialogue énormément avec la DNLH,
qui porte mal son nom.
Qui est dans la... Oui, là aussi, oui. Rien que le nom,
ça prouve que les mecs n'y connaissent absolument rien.
Qui, eux, dialoguent avec les supporters, parce qu'ils ont bien conscience que, entre le patronyme et la vision du supporterisme qui en dégage, il y a quand même un sérieux souci. L'image des supporters a effectivement changé, ils le savent, ils ont affaire à des gens qui travaillent avec la loi maintenant, et qui n'hésitent pas à les amener dans les tribunaux s'il le faut. De l'autre côté, il y a aussi la commission de discipline, je rappelle, de la Ligue, qui est totalement indépendante et qui, eux, sont partis tête la première en croisade contre les supporters. Voilà, encore une fois, ça c'est la loi à l'ordre, ils s'en foutent, c'est une sanction, ils ne cherchent pas à comprendre. Le problème, c'est que tous ces acteurs, à un moment donné, il faut les mettre autour d'une table et il faut leur poser les vraies problématiques. Les vraies problématiques, quelles sont-elles ? C'est que si aujourd'hui, il n'y a pas de discussion bilatéral, trilatéral, on n'avancera pas. Le mouvement ultra, pour l'instant aujourd'hui, pour moi, va droit dans le mur. On ne peut plus continuer comme ça, on arrive à un point de non-retour. Donc, quelles sont les solutions pour eux et pour nous ? Du dialogue, essayer de trouver des consensus acceptables par tous, pour les valeurs des supporters, hein, les valeurs d'indépendance des ultras notamment. Il n'est pas question non plus d'être materné, d'être amené d'un point A à un point B à chaque fois qu'on fait quelque chose. Mais d'un autre côté, il faut aussi que la Ligue arrive à comprendre que son enjeu, il est là. Elle ne peut pas, elle n'a pas les moyens de se permettre de se débarrasser des ultras en France. Elle ne peut pas se les permettre, ce n'est pas possible. Ça serait une atteinte au football français. On voit bien qu'on évolue dans un cadre de stades qui ne sont pas remplis tous les week-ends. Encore une fois, il y a beaucoup de stades qui sont moitié vides, et sans les ultras, ils le seraient encore plus, et ils le seraient encore plus a fortiori, étant donné que les gens ne seraient plus attirés par un stade où il n'y a pas d'ambiance. Voilà, donc il faut dialoguer. S'il n'y a pas de dialogue, on va droit dans le mur, et effectivement, tous les supporters, les uns après les autres, vont violer tous les interdits, et ça finira avec des émeutes partout en France. Voilà. Je ne vois pas d'autre issue. Soit il y a un dialogue, un réel dialogue qui s'instaure. Nous, on a entière confiance en l'ANS pour continuer le travail qu'ils sont en train d'effectuer. soit il y a un vrai gimmick qui se fait, soit sinon, je crois qu'on va au clash. Hein.
Eh ben écoute, Laurent, la transition est parfaite, puisqu'on va accueillir dans quelques instants, c'est James, je crois, son prénom, qui est porte-parole de l'ANS. Merci vraiment, Laurent, de nous avoir éclairé sur tout ça. Et puis, bah, écoute, on va suivre évidemment ce qui va se passer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et puis évidemment,
j'ai envie de dire la porte, l'antenne est toujours ouverte si vous avez quoi que ce soit à dire.
Un dernier petit mot de soutien à tous les gens qui ont été contrôlés sur les deux derniers déplacements.
Est-ce qu'il y avait un arrêté aller jusqu'au prochain match, c'est-à-dire après Amiens, on va à
Marseille. Alors Marseille, on s'est pas déplacé depuis.
Oui, ça fait un moment que.
Depuis un petit moment. Ouais.
Mais normalement, il n'y a pas d'interdiction.
Non, pour l'instant, non. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on va insister et on va communiquer très prochainement dans la presse. Il est hors de question que 200 ultramarines soient interdits de stade, quelle que soit la durée. Ces sanctions seraient illégitimes et au vu du traitement qui a été infligé aux supporters des Girondins qui ont fait ces deux déplacements sur les deux derniers matchs, on ne le tolérerait pas et on ne l'accepterait pas. Et encore une fois, c'est pas des menaces, mais l'ombre d'une mise en sommeil pendant plusieurs mois couvre. Quant au club des Girondins de Bordeaux, il serait peut-être temps qu'ils prennent conscience de la gravité de la situation et qu'ils finissent par réagir.
Alors voilà, on n'en a pas parlé, c'est vrai, j'ai oublié de te poser la question sur ça, mais le club a mis très longtemps à réagir, seulement hier, aujourd'hui, je ne sais plus, dans la presse. Enfin bon, bref, même s'il a plus ou moins pris la défense un petit peu du truc, mais...
C'était avant.
Mais voilà. Merci vraiment, Laurent. Et puis voilà, comme on t'a dit, hein, l'antenne est ouverte s'il y a quoi que ce soit à dire ou un message à faire passer, et on suivra ça très prochainement dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Bon courage, Laurent.
Merci.
Merci.
Bonne soirée. Merci, bonne soirée.